Et c'est avec grand plaisir que nous retrouvons l'équipe complète dont on est tous debout. Ah! Même Martin est là.
Ben oui, absolument.
Je me demandais si tu travaillais encore ici.
Oui, mais moi, j'ai droit à 23 semaines de vacances rendues à mon âge et à mon expérience de ce Roger. Je vous fais le bonheur d'être ici de temps en temps, là, mais généralement, je devrais être en vacances presque tout le temps.
Il va falloir que je fasse du rattrapage. Je disais à tout le monde que tu avais pris ta retraite.
On n'est pas loin, hein? Ça sent bien. Puis là, on revient, puis on est tout mélangé. Hier, je suis revenu pour regarder mes courriels parce que je me dis, non, je ne ferai pas ça à matin. Là, je vais être venu rentrer à 3 heures. Moi, je suis professionnel comme ça.
Wow!
Surprenant, hein? Et en plus, je tombe sur une invitation pour aller voir Maud Charon.
Ah, c'est toi qui es allé?
Ben oui, c'est moi, évidemment. J'ai commencé hier, moi, à travailler. J'ai mis fin à mes vacances de prématurément. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Quand t'es vaillant, t'es vaillant.
Pour aller aux terrasses urbaines, hein, c'est donc
mais quand même, il fallait que je travaille. Il faisait chaud, il y avait du monde.
C'est-tu plate?
Hey. Ah, c'est l'horreur. Ouais. Et ensuite, là, tu rentres, puis évidemment, tout est changé un peu. Ils ont fait du ménage, je sais pas trop. Ils ont changé mon clavier. Ils ont changé ma souris. Je me retrouve plus.
Les petites habitudes de Martin.
Après ça, j'arrive pour lire mes textes, puis là, je retrouve plus, j'ai plus la bonne grosseur de lettres. Fait que là, je m'arrache les yeux pour voir. Ah, ça va pas bien, Martin.
Mais est-ce que t'as oublié ton mot de passe, Martin?
Non, parce que je l'avais changé. Ah! Étant brillant de nature, je l'avais changé avant de quitter. Tu sais? Fait que je me suis dit, parce que nous, on a une cachette, s'il ne faut pas le dire. On a une cachette pour mettre nos mots de passe. Comme on est trois nouvelles, des fois, on peut avoir accès à l'ordinateur de l'autre pour des raisons.
Ça veut dire que je pourrais avoir ton mot de passe si je fouille.
Si tu fouilles, tu vas le trouver, c'est certain, Émilie.
Ben, si tu fouilles, dans le cas de tout le monde, tu vas finir par trouver mon passe pareil. Émilie, je fais juste te dire ça comme ça.
En tout cas, ça pour dire que c'est un retour agréable. Je vous retrouve tous les deux. Ouais. Ça me fait plaisir.
Nous autres aussi, ça nous fait plaisir.
Je suis juste bien déçu qu'il ait installé une souris puis un clavier puis que tu n'aies plus ta dactylo puis ton fax.
C'est vrai.
On est bien déçu.
En semaine 5h25, écoutez On est tous debout avec Émilie Gagné et Jerry Castonguay. En direct sur l'application iHeartRadio à rougefm.ca et au 102.9 Rouge.
Rouge!
C'est un quiz télévisé à la radio. On fait les affaires différemment et c'est un grand plaisir de les retrouver réunis à nouveau pour le quiz Géopardy. On accueille nos deux participants ce soir. Ses cernes ont laissé place à un bronzage digne d'une influenceuse de bas niveau. Martin Brassard, bonsoir!
L'influenceuse de bas niveau. D'accord.
Et elle est tellement reposée qu'elle pensait que j'étais en vacances et quelle ne fut pas sa surprise et sa stupeur quand je suis rentré en studio ce matin. Émilie Gagné, bonsoir.
Allô, c'est moi la mêlée.
Ben oui, écoute. Je suis un peu mêlé. Martin, à ton départ, ton pointage est de combien? Tu t'en souviens?
Je pense que c'était 0-0. On avait fait table rare.
Oui, je pense que j'avais pas mis à jour le pointage. C'était 14-0. J'étais comme ça, mais c'est 0-0. Alors,
c'était 0-0.
On recommence.
On est parti à zéro complètement.
Wow.
On part à neuf, on part sur de bonnes bases. Vous avez tous les deux zéro. Alors, Amy a travaillé plus que Martin dans les dernières semaines, alors je laisse à Émilie le luxe de choisir la catégorie du soir. Ça passe et proche. C'est pas long, croquant ou en veux-tu c'tes pâtes?
Moi, je veux en veux-tu c'tes pâtes.
En veux-tu c'tes pâtes? Question pour un point. Bon. Vous croyez avoir la bonne réponse à cette question, la bonne question à cette réponse, c'est important.
Oui.
Vous dites votre prénom et ça vous donne le droit de parole.
OK.
C'est l'appellation d'origine d'un fromage italien de lait de vache réputé pour être goûteux et salé, fabriqué dans une zone limitée de l'Émilie. Voyons, calme-toi. Dans une zone limitée de l'Émilie-Romagne, sud de la Lombardie. Vas-y, tu peux
Émilie, je vais m'essayer. Qu'est-ce que le parmesan?
Et c'est une bonne réponse!
Bravo, Émilie!
C'est Émilie, un point. Tu quittes ou tu doubles?
Je double!
On double, c'est une femme nouvelle depuis qu'elle a déménagé et qu'elle vit dans le bois. On dit qu'elle fait face aux perce-oreilles, elle n'a plus peur de rien. Émilie, les catégories restantes. Ça a passé proche, c'est pas long ou croquant?
Ça a passé proche.
Ça a passé proche. Normalement, une question pour deux points.
OK. Il y a juste moi qui joue, là.
Il y a juste toi qui joue.
OK.
Fie-toi pas sur Martin pour avoir son droit de réplique.
OK.
C'est le nom qu'on donne à l'alliage du cuivre et de l'étain.
Ah non! Voyons donc!
L'alliage du cuivre et de l'étain.
Cuivre et étain ensemble.
Je répète le nom de la catégorie. Ça a passé proche.
Passé proche?
Ouais. Et ça commence à être long, ma fille.
Qu'est-ce que le métal?
De quoi?
Non, mais
le métal!
C'est pas ton meilleur essai, Émilie.
Qu'est-ce que le fer?
Ben, au moins, j'aurais aimé mieux le fer. Mais qu'est-ce que le métal?
C'est pas un alliage.
C'est assez général.
Un alliage, c'est une affaire, probablement.
Okay. L'étain puis le bronze, c'est des métaux aussi, soit dit en passant.
Mais je sais pas.
On est dans le champ, tu mérites ton zéro point.
Comment ça? Est-ce que tu sais ça, Martin, toi?
Non, tu sais quoi? C'est quoi la...
L'étain et le cuivre. Il a arrêté d'écouter.
L'étain et le cuivre, je sais pas.
Ça passe pas. Hey, vous êtes donc bien proche, la gang.
Ben voyons.
Dernier indice pour le fun.
Ouais.
André Degrasse.
Bronze.
Eh oui, Martin aurait eu la bonne réponse.
Ben
c'était
non,
qu'est-ce que le bronze?
Ah oui, l'étain et le cuivre, ça fait du bronze.
Oui. Avant, là, tout ce qui était un alliage avec le cuivre, on appelait ça du bronze. On était bien niaiseux à l'époque. Mais maintenant, c'est juste l'étain et le cuivre.
D'accord.
Voilà, vous l'aurez appris.
On va se coucher moins niaiseux.
J'espère bien, parce que sinon, ça fait dire. Attention à ce qui traîne chez vous, ça pourrait valoir de l'or.
Il y a des choses qui sont enterrées dans notre terrain qui valent une petite fortune. C'est une belle histoire. Au Sri Lanka, il y a un monsieur qui faisait des travaux d'excavation dans sa cour arrière. Il voulait se creuser un puits pour avoir de l'eau.
Ouais.
Et là, il fait appel à quelques personnes pour l'aider. Il commence à creuser. Et là, il trouve une immense roche très, très grosse. Particulière. Alors, il décide de sortir ça de son terrain. Il se trouve que la roche en question, c'était une grappe de saphir.
Ben voyons, du saphir.
Du saphir. C'est d'abord une pierre précieuse qui vaut énormément cher. On estime la pierre, qui est immense, à 2,5 millions de carats. C'est considéré comme la plus grande grappe de saphir au monde. On pense qu'elle pourrait valoir au-dessus de 100 millions de dollars. Et il a trouvé ça, le monsieur, derrière sa maison. Le truc le plus particulier là-dedans, c'est que le monsieur, son métier, c'est que c'est un marchand de pierres précieuses.
Ben voyons donc, ouais. Hey, je te dis qu'il est tombé sa bonne affaire.
C'est ça. C'est sa job, lui, de vendre des pierres précieuses. Alors,
mais il y a les contacts, il va être capable de faire de l'argent.
Oui, mais imagine la réaction qu'il y a eu quand il a trouvé ça dans sa cour. Il savait c'était quoi, là.
Oh,
il a compris vite la valeur de sa pierre. Ben, c'est impressionnant. Puis, au Sri Lanka, c'est sûr qu'on en a trouvé quelques-unes, pierres de saphir, mais pas de cette grosseur-là, pas de cette valeur-là. Hey, puis je vois des photos, là, c'est immense.
Ouais.
Le saphir, c'est magnifique, c'est bleu.
Ouais,
c'est...
Ouais.
Alors, voilà, on ne sait pas ce qui dort chez nous. Hein?
Ben, effectivement. Écoute, tu peux-tu croire? Moi, quand je trouve une veste de loup dans mon terrain, je fous comme de la marde. Imagine si j'avais trouvé du saphir.
Ah, tu parles du champignon, là?
Ben oui, tu pèses dessus, là, puis ça fait pouf.
Ah, t'as ça, toi?
À de temps en temps, oui.
OK, OK.
Ça, c'est pas du saphir, mais ça me rend tout aussi content.
En semaine 5h25, écoutez On est tous debout avec Émilie Gagné et Jerry Castonguay. En direct sur l'application iHeartRadio, à rougefm.ca et au 102.9 Rouge.
Rouge!
Hey! Émy était parti en vacances la semaine passée.
Oui.
Martin, ça fait 4 semaines qu'il était parti. Là, je me pouvais plus. Ça me prenait un quiz. Alors, c'est le retour de Fait ou Faux.
En tout cas, Émy, on faut s'attendre à d'excellentes questions parce qu'il y a eu le temps de te préparer. Là,
hein? Oui.
J'ai écuvé mes questions spéciales corps humain. On commence avec Martin.
Oui.
C'est comme un mélange de Fait ou Faux et de quiz malpropre.
Ah, OK. Okay?
Ah. Je l'ai beaucoup refoulé là, dans les dernières semaines. Alors, Martin, la muqueuse de notre estomac se renouvelle à chaque jour. Est-ce que c'est un fait ou c'est faux?
Et la mienne, en tout cas. Oui, c'est un fait, J.
Et c'est faux! C'est aux 3 ou 4 jours.
Ah, eh bien.
OK, je comprends des affaires.
ah oui? Dis-nous en plus. Non? OK.
Non, c'est correct.
Alors, un point à Amy.
Oui.
Amy, en moyenne, on passe 4 ans de nos vies à manger si on mettait ça bout à bout non-stop.
4 ans?
4 ans.
Moi, écoute, normalement, on mange au moins 3 fois par jour.
Oui.
Dans mon cas, c'est minimum 3 fois par jour. Je pense que c'est faux, c'est plus que ça.
Eh non, c'est 4 ans au total.
Bon.
Oui, jour et nuit.
Plus, moi aussi.
Ah ouais?
Oui.
Ouais, c'est long, vous autres. J'irai pour rester avec vous autres. Martin,
oui?
C'est 1-1. Les muscles les plus rapides de notre corps sont ceux sur notre langue. Est-ce que c'est un fait ou c'est faux?
Ouais, ça, c'est une, s'il vous plaît, une bonne question. Moi, j'aurais tendance à croire les paupières, les yeux. Alors, je vais y aller avec c'est faux, Jay.
Et Martin, t'as tout à fait raison sur toute la ligne. C'est effectivement les paupières.
Wow. Hein? Vous n'avez pas affaire à n'importe qui, hein?
Hey, on cligne des yeux plus de 15 000 fois à chaque jour.
C'est impressionnant.
C'est 150? En tout cas, c'est beaucoup. 2-1 pour Martin. Amy.
Oui.
On perd à chaque minute plus de 300 cellules de peau morte.
Oh, OK.
Chaque minute, ben, 300.
Ça me paraît beaucoup, ça. C'est faux.
Et pourtant, c'est un fait. Et
non.
C'est dégueulasse. 3-1 pour Martin.
Eh là là.
Martin, nos cheveux poussent de 6 pouces par année. Est-ce que c'est un fait ou c'est faux?
Ça dépend des personnes, évidemment. Là,
ouais, mais... parce qu'il y en a que ça pousse plus pantoute.
Non, ça, c'est clair.
D'autres
six
affaires
pouces.
Qui poussent.
Ah oui, c'est
six
sûr.
6 pouces par année.
Ouais.
Moi, je pense que c'est plus que ça.
Ah ouais.
Ah,
en
non.
tout cas, pour moi, c'est plus que ça,
ah,
c'est
oui?
clair.
Ah oui.
Martin,
t'es chanceux?
Tout le temps rendu chez la coiffeuse.
Ben là, oui. Il faudrait que j'aille beaucoup plus souvent. Je te dirais que c'est faux, Jay.
Et c'est un
c'est
fait.
Vrai.
C'est 6 pouces
ah,
par année.
Ouais.
Tu sais ça, toi?
Ben oui, je sais ça.
Tu me mesures?
Ben là, ça fait un an, je me suis pas fait couper les cheveux, puis c'est à peu près ça.
Ouais.
Ça a poussé.
Bah, ouais, fait que t'as à peu près 3 ans de cheveux sur la tête, si je compte ça vite. C'est pas pire. Alors, c'est 3,
c'est l'égalité.
C'est 3 à 2. Non,
non, c'est
3
à 2. Je mène encore, OK.
Oui, ouais, Martin est toujours en avance. Amy,
oui.
Notre pied gauche est 10% plus gros que notre droit.
Ben moi, je pense que c'est vrai qu'il y a un pied plus gros que l'autre dans okay. la vie,
ouais,
mais je pense pas
vrai.
Que c'est toujours le même. Alors, je vais dire que c'est faux.
Et t'as raison de dire que c'est faux, c'est inventé de toutes pièces.
Ah!
Ah oui?
Oui.
Ah, je pensais qu'il y avait un pied qui était un
parce que moi, j'ai tout le temps un soulier plus serré que l'autre.
Oui.
Ah oui?
Ouais.
C'est peut-être une question de l'assiette, ton problème. Martin, tu tranches. C'est 3 à 3.
Oui.
C'est 4
3 à 3.
À... C'est 3 à 3,
oui.
OK. On n'a pas de muscles dans des... On n'a aucun muscle dans nos doigts à proprement parler. Est-ce que c'est un fait ou c'est faux?
Il n'y a pas de muscles dans les doigts.
Dans nos doigts,
ah,
on n'a
oui.
pas de muscles. Est-ce que c'est un fait ou c'est faux?
Ça se muscle.
Ah là, tout le monde se regarde les mains. C'est extraordinaire.
C'est ça,
en voiture,
dit,
faites pas ça, s'il vous
on
plaît.
On se dit, même en forçant beaucoup...
Ouais, hein, c'est embêtant.
Je connais quelques culturistes.
dont tu connais très bien les mains.
Puis je leur regardais les mains récemment.
Ah oui, ben oui.
Puis à mon avis,
il
n'y
a pas de muscles là-dedans.
Il n'y a pas de muscles, alors
mais
je
non.
dirais que c'est un fait. Je...
Et c'est un fait.
Mm-hmm.
Les muscles pour faire bouger nos doigts sont tous dans la paume ou encore dans l'avant-bras.
C'est ça, voilà. Exact.
C'est malade, la gang. Hein? Une victoire bien méritée de Martin
oui.
pour son grand retour à fait ou faux. Amy, t'as-tu de la bouffe que tu manges en cachette chez vous?
Ben, je pensais à ça pendant
ouais,
que
ouais,
la
ouais,
chanson,
ouais.
puis pas vraiment.
Non!
Non.
Tu traînes pas quelque chose en cachette au bureau des fois, de temps en temps?
Non.
Dans ton char?
Je suis plate. Ben non, jamais de bouffe dans mon auto.
Ah
hein, j'oublierais ça, puis ça serait pas bon. Non, c'est ça qui arrive. Je mange pas des affaires en cachette.
Ben voyons.
Ben, je sais pas.
Hey,
qu'est-ce qui se passe
le
avec
monde,
moi?
Le monde, il mange des affaires en cachette.
Pour vrai, tout le monde fait ça.
Ben oui, mon
ben voyons.
Dieu. Écoute, prends-moi, j'ai plein d'exemples.
C'est
des fois, j'arrive à l'épicerie, puis ben tu sais, c'est tranquille à la maison parce que la fille est à la garderie, puis ma blonde est au travail, alors...
Là, tu peux te gâter dans le garde-manger.
Ben, je m'amène un petit paquet de poulet frit, là, de l'épicerie. Ouais, écoute, ça passe en douce, puis je jette ça dans la poubelle à l'extérieur pour pas que ça paraisse.
Ben voyons
vie.
Donc!
Ouais, ça arrive de temps en temps. Moins souvent maintenant, mais il était une époque là, que je faisais ça.
Fait que tu manges un snack de poulet
mais, oui.
en cachette.
Oui. Mais ça a fini par sortir au grand jour, je l'ai dit à ma blonde, parce que finalement, je trouvais ça niaiseux de garder ça pour moi. Mais en même temps, c'était il y avait quelque chose de le fun. Des pop-tarts. Moi, je traîne des pop-tarts.
Ah, c'est pas
ça
vrai.
Chez nous. Hey, c'est dégueulasse,
mais
non, des
t'as-tu
pop-tarts.
5 ans?
Ah oui, mais écoute, pour vrai, je mange quand même bien dans la vie.
Okay.
Sauf que j'ai des cachettes, puis ça me fait grandement plaisir. Et je ne suis pas le seul.
Mm-hmm.
Parce que il y a une étude qui a été faite par une grande journaliste, quand même, du New York Times, qui s'est intéressée, à l'aide d'une diététicienne, à ce qu'on mange depuis le début de la pandémie et qu'est-ce qui a changé comme habitude.
Okay.
Puis on s'est rendu compte que à peu près le tiers des gens ont développé ce qu'on appelle de la bouffe en cachette. Parce que nos enfants ont été pas mal à la maison, parce que le télétravail, parce que 1 million de raisons, notre vie privée est à l'épreuve au courant
mm-hmm.
de la dernière année et demie. Et on s'est rendu compte que les gens mangeaient des affaires en cachette. Puis pour vrai, les exemples qui sont sortis, je me suis trouvais tellement là-dedans en revenant de l'épicerie, en allant au travail, en arrêtant au dépanneur. C'est de la bouffe qu'on considère pas vraiment santé, mais qu'on a besoin de manger en solitaire.
Je peux comprendre, par exemple, quand t'as des enfants, puis là, t'as envie de manger une poignée de chips ou une poignée de biscuits
ouais,
ou je sais pas trop, mais là, tu veux pas le manger ça d'en face.
Exact, parce qu'ils vont vouloir, parce que tu sais que c'est pas bon pour eux.
Fait que là, tu te caches, puis tu manges ton biscuit ou tes chips. Je comprends ça.
C'est exactement
c'est
ça
passe,
dont
hein?
on parle.
OK. Bon.
Ça s'appelle le rituel de la nourriture secrète.
Ah.
Et ça peut être dans la maison, ça peut être au travail ou en vous rendant au travail. L'essentiel, c'est que vous vous cachiez, OK? Puis la diététicienne est assez claire, elle dit « c'est super bon pour le moral ». Ce que vous faites, c'est tout à fait normal, puis c'est même recherché. Il faut que vous ayez ce petit moment-là
ah bon.
Pour vous.
Okay.
C'est bon pour la santé psychologique. Mais attention, il y a deux grands dangers.
Ben oui.
Parce que vous allez ressentir une une émotion tellement positive, ça va vous envoyer de la dopamine. Ça pourrait faire un lien qui est erroné entre cette nourriture-là, qui est souvent pas bonne pour la santé, et la gratification et le plaisir que vous avez, puis ça peut développer une relation malsaine avec cette malbouffe-là. Deuxième chose qu'il faut faire attention, c'est il faudrait éventuellement que ça arrête d'être un secret, parce que ce n'est pas bon de cultiver des secrets dans votre vie avec votre entourage. Okay. Non, ben c'est bon jusqu'à un certain point. Un secret, peut-être pas. Une vie privée, c'est important, là, puis tu sais, développer comme ses passe-temps à soi-même, puis pouvoir s'identifier à quelque chose nous-mêmes, c'est important. Mais ouais, faut faire attention, et c'est un rituel qui est tout à fait sain. Peut-être privilégier de la bouffe qui est saine.
Ouais, mais là, pourquoi tu la mangerais en cachette dans ce cas-là?
Prends par exemple.
Ah, tu vas manger mes carottes en cachette.
Non, non, mais tu sais, quelque chose que vous aimez, comme toi, par exemple. J'allais dire un exemple, mais tu sais, en même temps, c'est très bon pour la santé et pas très excitant manger des légumes alors que ton chum aime pas ça. Mais tu vas pas te cacher pour manger des légumes, on s'entend.
Pas du tout, non.
Mais par exemple, un repas que vous appréciez. Des sushis, c'est un exemple. Mm-hmm. Ça fait pas l'unanimité dans la famille, les sushis, mais si vous, ça vous tente de manger des sushis, ce qui est pas si mauvais pour la santé, on s'entend, ben c'est peut-être une avenue. Des grignotines là, qui sont pas si mauvaises, ça existe, tu sais, je pense des petites galettes de riz, par exemple, ben, ça peut être super bon, ouais, c'est ça, ça peut. Il y a des gens qui trouvent ça bon.
Ah, mais tu vois,
bon,
moi, quand on tombe dans le santé, manger en cachette, on dirait que ça a plus de fun.
Pas mal moins de satisfaction. Émilie, hein? Il faut pas que tu partes en vacances trop longtemps, parce que ça me laisse trop de temps à penser, puis à m'informer d'affaires pas importantes et à perdre mon temps. C'est le retour de la chronique du... Un petit G connaissant, il perd son temps sur Google. J'ai appris dernièrement.
Qu'est-ce que t'as appris?
Comment, oui.
Dis-moi ça.
Ah, tu sais, là, les variants de la COVID-19, là, c'est comme, c'est rendu compliqué. Moi, j'ai pas appris mon alphabet grec, et là, on nous bourre de lettres grecques que je ne connaissais pas. Parce qu'au début, c'était des variants comme le variant sud-africain, le variant de l'Inde, le variant chinois, le variant britannique. Et là, partout à travers le monde, on trouvait que ça faisait, c'était comme préjudiciable pour ces pauvres gens-là de la Grande-Bretagne qui étaient pognés avec un variant à leur nom, comme si c'était des lépreux, alors que ça aurait pu arriver n'importe où, cette mutation du virus-là. Et une fois que la mutation est faite, ça a plus rien à voir avec le territoire. Fait que t'as pas, tu sais, je veux dire, maintenant, là, faut pas que t'aies peur d'aller en Grande-Bretagne de peur de pogner le variant britannique parce qu'il est même plus là.
Ben, c'est ça, il est rendu partout, en fait.
Alors, on s'est dit, peut-être qu'il faudrait changer ça. Et l'Organisation mondiale de la santé s'est penchée sur une méthode pour donner des noms à des variants pour démêler tout le monde. Ça, c'est l'objectif principal, pour connaître l'importance de chacun des variants, de ces mutations, cette souche de virus qui peut avoir des propriétés différentes. On comprend. Puis c'est aussi pour faire passer ce message-là à la population entière. Alors là, il y a un enjeu d'internationalité, il y a un enjeu d'intelligibilité également. Alors on s'est dit, on pourrait leur donner des numéros. C'est ça qu'on a commencé à faire.
Variant 1, 2, 3.
B1, 17, c'est pourquoi? Truc bin. Ben ça, c'est le nom de la mutation. Ça, c'est très compliqué dans un texte.
Mais ça peut pas être juste variant 1, variant 2, variant 3.
C'est parce qu'il y en a trop.
Ben, il y a beaucoup de chiffres disponibles dans l'univers. Là,
oui,
je veux dire.
C'est certain. C'est, oui. Sauf que c'est pas assez intelligible et pas assez international, parce que c'est pas tout le monde qui a le même alphabet. Tu sais, tu t'en vas en
Russie. Les chiffres, c'est des chiffres.
Ouais, tu t'en vas à Rome, c'est pas les mêmes chiffres.
Non,
en 2021, c'est les mêmes chiffres. Mais c'est pas ce à quoi...
C'est pas ça qu'ils ont fait.
C'est pas ça qu'ils ont favorisé. Ils ont décidé d'aller avec des... Comme on a vu avec les ouragans, avec l'Organisation internationale
météorologique. Ouais, mais ça, météorologique, c'est des noms, des prénoms.
C'est des noms, c'est ça. Alors, ils se sont dit, ben là encore, là, ça donne une personnalité aux variants. C'est pas ça qu'on veut.
Ben
ça pourrait être aussi péjoratif que la citoyenneté. Alors, ils se sont dit, ben qu'est-ce qui nous reste? Nous reste l'alphabet grec. C'est chacune des lettres est assez prononçable différemment. A sa propre identité et on en a quand même une bonne quantité. Alors, c'est de là qu'est arrivée l'idée de nommer ça avec l'alphabet grec. Sauf que on est déjà en train de se dire « Ouais, ben, c'était peut-être pas la meilleure idée finalement » parce qu'on est déjà en train de l'épuiser, cet alphabet grec-là.
Ah oui?
Parce qu'en réalité, il y a un peu moins de lettres que dans l'alphabet qu'on a, nous, en ce moment.
C'est un bernouche.
Voilà, c'est fou parce que là, on connaît le delta, l'alpha.
Il y en a d'autres.
Il y a le bêta également, il y a le gamma. gamma, il y a le epsilon, ben il y a voyons. Le lambda actuellement, oui. C'est qu'ils peuvent être classés dans certaines catégories. C'est-à-dire, comme le delta, là, c'est un des plus importants actuellement, qui est le plus évalué et le plus... d'envergure, disons, qui monopolise l'attention des scientifiques. Mais il y en a d'autres, des sous-catégories, qui méritent une attention particulière pour voir comment ça se développe. Bon. OK, ça, c'est tel que tel. Mais il y en a d'autres aussi qui n'ont pas encore eu leur lettre parce qu'ils sont tellement pas importants et sous-évalués qu'ils n'ont pas de lettre. Alors, tu sais, c'est comme un processus. Quand t'es rendu à avoir ta lettre grecque, là, c'est comme le paroxysme pour le virus. C'est comme leur objectif. C'est comme les Olympiques pour eux. Là. Une fois qu'ils ont leur lettre, wow! On les accueille dans leur ville avec tout le consortium des je m'égare, là, je pense à Maud Charon, puis je suis vraiment content qu'elle ait été accueillie en bonne et due forme hier pendant les terrasses urbaines. C'est pour ça. Comment j'ai fait ce lien-là?
J'ai aucune idée.
C'est pour ça, Amy, que je te dis, il faut pas que tu partes trop longtemps parce que je m'emballe.
En semaine 5h25, écoutez On est tous debout avec Émilie Gagné et Jerry Castonguay. En direct sur l'application iHeartRadio, à rougefm.ca et au 102.9 Rouge.
Rouge!
Ma blonde Aïssa a écouté Découverte parce qu'à chaque fois, elle dit, j'ai l'impression qu'on est en train de m'annoncer tranquillement que la fin du monde arrive. Alors voici, chronique Découverte, fin du monde au 102.9 Rouge. La fin est à nos portes.
Ah, tu nous rassures, hein, ce lundi matin, toi? Oh là 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 là!
Ah, dans les Alpes françaises, on a découvert un phénomène météorologique et climatique assez étonnant, merci. C'est qu'il y a des plaques de neige qui sont devenues rouges là-bas. Rouge sang, de la neige de sang. C'est qu'il y a une algue en ce moment qui s'appelle l'algue sanguina qui prolifère à cause des changements climatiques. C'est donc dire que la neige sacrée de l'humidité, le soleil, ben c'est comme un terreau fertile. Alors, entre les deux, il y a des minéraux dans la neige et il y a des algues qui se créent à cause de ça. Et ces algues, normalement, sont vertes, mais là, le soleil est tellement fort que les algues deviennent rouges. Parce que normalement, dans une plante, ce qui la permet de grossir et de se nourrir de la lumière, c'est la chlorophylle. Mais quand le soleil est tellement fort, il y a une cellule supplémentaire qui aide à protéger la chlorophylle. Ça s'appelle des cellules molécules pigmentaires caroténoïdes. Donc, ça devient rouge. Et là où est-ce que ça devient inquiétant, c'est que ce phénomène d'algues dans la neige n'est pas étranger. Documenté depuis l'existence, et n'est pas dommageable. Mais quand elle devient rouge, elle absorbe davantage les rayons solaires et cette neige-là, normalement, devrait refléter la lumière dans l'espace et pas la garder sur la planète Terre. Mais là, on l'absorbe et ça génère de la chaleur et ça accélère les changements climatiques. Alors la gang, on n'est pas sorti du bois, encore une fois, mais c'est spectaculaire quand même. Et je veux pas dire que c'est pas beau parce que c'est quelque chose...
Ça doit être un peu épeurant. Non, mais tu sais, les films d'horreur, là, quand tu vois du rouge dans de la neige, ça part mal.
Ouais, c'est ça. Puis là, c'est dans les Alpes françaises, un lieu qui est super splendide, mais là, ça devient rouge. C'est inquiétant. Alors oui, c'est une sonnette d'alarme qu'on devrait réaliser, mais le phénomène est quand même, c'est ça je veux dire. Je veux pas dire que c'est laid, je veux pas dire que c'est beau, mais c'est spectaculaire, par exemple, parce que ça prolifère, c'est des algues, tu sais. Puis plus il y en a, plus il en pousse. Alors c'est quelque chose, et ça, tranquillement pas vite dans les Alpes françaises, c'est en train de devenir quelque chose. Est-ce que ça va arriver au parc du Mont-Commis?
La réponse,
c'est non, inquiétez-vous pas, on devrait être pas pire pour faire du snow puis du ski l'hiver prochain, j'en suis convaincu. Si Maud Charon est revenue si vite de Tokyo, c'est juste parce qu'elle était pas capable de dormir sur ses fameux lits en carton et avait hâte de revenir à la maison. C'est pas la première fois qu'on parle de meubles en carton. Hein?
Non, parce que je me suis posé la question, ça fait fureur et non, là, du côté de Tokyo, du moins on se dit, ah, des lits en carton, qu'est-ce que c'est ça? Hey, ça fait 10 ans que ça existe, les meubles en carton.
Voyons donc, toi.
Même que dans les...
Ça a été un grand succès.
Mais c'est ça l'affaire, c'est que ça a pas cartonné.
Ah, bah, tabarouette, bravo, Louis, chapeau. T'es fière.
Ça a pas du tout fonctionné parce que il y a des designers qui disaient c'est l'avenir. Il y a 10 ans, il y a même une compagnie québécoise qui s'appelait Toy Toy qui faisait des meubles en carton pour les enfants. T'sais, on était comme partis là-dessus. On s'était dit c'est l'avenir, c'est
ça
léger,
coûte pas cher, puis c'est
écologique,
beau.
C'est facile à déménager, c'est pas lourd, c'est quand même durable. Alors on pensait que ça allait vraiment fonctionner. Finalement, ça a été un échec lamentable. Il y a quand même certaines personnes qui ont ont réussi à mettre la main sur des meubles en carton québécois, là, surtout il y a une dizaine d'années.
Okay.
Sauf que ça a été un échec. Il y a même la société Cascade qui a été questionnée dernièrement avec ce qui se passe du côté de Tokyo. On a demandé est-ce que vous avez l'intention de faire des meubles en carton, des fauteuils.
Ça, ouais.
Parce qu'eux, ils avaient déjà fait des fauteuils en carton comme pour des événements spéciaux, par exemple, comme pour des conférences de David Suzuki, entre autres.
Okay.
Mais ils se sont dit non, on se lance pas là-dedans. On a pensé faire ça il y a 10 ans, ça a été un échec. Mais pourquoi donc? Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les meubles en carton?
Ouais.
Alors, selon les dires, ça sent pas bon.
OK.
C'est cher et c'est laid.
Ah, c'est sûr que c'est pas beau.
Et moi, je dirais avec le lait.
C'est vrai que c'est pas... Soyons honnêtes.
Ça a pas beaucoup de qualité, finalement.
Non, ben, en fait, ça fait cheap.
C'est pas tellement un matériau noble.
Parce que j'ai vu des photos de sofas en carton, de lits, de luminaires.
Ah,
et
ouais.
Tu vois là, que c'est du gros carton.
Luminaire en carton, un nez à feu.
Mais tu sais, probablement qu'on le traite d'une façon à ce que ce soit plus durable.
Ben, mais même bien traité du carton, c'est du carton.
Ben non, c'est ça. Donc, ça fonctionne pas, même s'il y a plein d'avantages.
Mm-hmm.
Au Québec, on achète du bois. Tant qu'acheter un meuble en carton, je vais acheter du vrai bois. On aime mieux les matières, les vraies matières.
Ouais, on en amasse du bois ici. On n'a pas besoin de prendre du bois recyclé.
Voilà. Alors, la mode actuellement à Tokyo, là, du carton, je ne crois pas que ça vienne ici.
On
l'a déjà essayé il y a une dizaine d'années. Ça a été un échec.
Bon, on va laisser ça au Festival des cartons folies de Cabano, qui a pris une pause depuis 2019.
Comme plusieurs autres.
Oui, mais eux, il y avait de la misère à recruter pour le CA avant même la pandémie. Alors, on espère que ça va revenir parce qu'il y a du carton pour eux autres, la gang. Il y en a en masse. Puis peut-être après, ils vont pouvoir se recycler avec le festival du plexiglas aussi. Ça aussi, va en avoir pas mal à réutiliser. Nouveau info, Martin Brassard.
Oui, la médaillée d'or Maud Charon qui a pris un bain de foule hier en plein centre-ville de Rimouski à son retour dans la région. À l'initiative des villes de Sainte-Luce et de Rimouski, l'haltérophile a été accueillie chaleureusement là, par des dizaines de personnes réunies lors d'une fête urbaine. L'athlète de 28 ans qui est grimpé, rappelons-le, sur la plus haute marche du podium chez les moins de 64 kilos, apprécie bien sûr ce véritable tourbillon là, qu'elle vit depuis au moins 5 jours, depuis sa médaille d'or. On écoute Maud Charon.
C'est quand je suis revenue au pays, à Vancouver, c'était mon lieu au vœu, que là, le monde est « Hey, c'est Maud Charon! » Je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Encore aujourd'hui, je savais pas à quoi m'attendre. Mais je suis vraiment reconnaissante de toute cette vague-là de support, de félicitations.
Elle souhaite que sa médaille aura un double impact, c'est-à-dire améliorer la réputation de l'haltérophilie qui a été mise à mal là, dans les dernières années et de prouver qu'il est possible d'accéder à un podium tout en s'entraînant en région. On écoute son commentaire à ce sujet.
C'est pas parce qu'il y a eu un scandale de dopage mondial que tous les pays sont impliqués dans ce scandale mondial-là. Nous, au Canada, on travaille fort, on a des valeurs équitables de justice aussi, alors on n'est pas porté à utiliser ces substances-là. Moi, c'est un honneur, en fait, de m'entraîner, de représenter ma région. Les jeunes qui croient qu'en région, c'est possible, que les clubs croient aussi que c'est possible de développer des athlètes élites puis de les garder en région.
Puis bravo à Maud, hein, parce que honnêtement, là, hier, elle s'est comportée de façon remarquable, saluant tout le monde et parlant avec tout le monde, malgré, rappelons-le, la fatigue. Là, parce que,
Là,
décalage horaire, Tokyo, Vancouver, Montréal, après ça, des entrevues. Elle arrive hier, encore un paquet d'entrevues. Alors, c'est assez remarquable ce qu'elle a réussi à faire. À son agenda dans les prochains jours, du repos? Parce qu'il y avait une réunion familiale hier. Après ça, c'est le repos. Elle va suivre les compétitions olympiques et paralympiques. Il ne faut pas oublier non plus. C'est assez exceptionnel. Et ça, c'est le maire de Rimouski hier, Marc Parent, qui me faisait remarquer. On a quand même deux Olympiennes à Rimouski, deux filles de Rimouski. Parce qu'il y a Camille Fiola-Dion là, qui va débuter bientôt
natation,
sa compétition en natation artistique, ce qu'on appelait à mon époque la nage synchronisée. 54% des Québécois ont reçu une deuxième dose de vaccin contre 57% en moyenne pour l'ensemble du Canada. L'écart qui sera attribuable aux politiques du gouvernement Legault distribue le plus grand nombre de premières doses possibles, quitte à retarder un petit peu la deuxième. Des experts rencontrés par la presse pensent que ça a permis au Québec de résister peut-être plus facilement à la troisième vague de la pandémie. Ça pourrait par contre jouer contre nous pour prévenir la progression du fameux variant Delta. 73% des Québécois ont reçu leur première dose de vaccin. Il y a Sylvie Blanchette qui va se présenter à la mairie d'Amqui. C'est la deuxième candidate à confirmer sa participation après son collègue au conseil municipal Normand Bouliane. En poste depuis 2017 pour le district numéro 6, Mme Blanchette était en réflexion depuis l'annonce de Pierre Damour. Elle hésitait face à son avenir politique en municipal, l'école, mais elle se dit maintenant prête et fin prête là, à relever un nouveau défi.
Depuis 2017, j'ai participé à beaucoup de dossiers, tout ce qui était les différents départements. Et je suis quelqu'un quand même, quand je m'implique à fond. Et avec la connaissance des dossiers que j'ai aujourd'hui, bien, c'est ce qui fait que je me sens prête à ce moment-là à servir encore plus la ville de Mkoui.
Et une autre, s'il vous plaît, de belle histoire ce matin. Écoute, pour écouter pour la première fois de l'histoire, l'équipe canadienne de soccer va jouer pour la médaille d'or aux Olympiques. Les filles ont en effet remporté leur match demi-finale contre les États-Unis, leur grande rival, 1-0 ce matin. Ça met fin, imaginez, une domination de 37 matchs consécutifs de victoire des États-Unis sur le Canada. La dernière victoire des Canadiennes contre les Américaines, ça remontait il y a 20 ans, en mars 2001. Alors, c'est une victoire très, très bienvenue et qui arrive à un superbe moment parce que ça va permettre aux Canadiennes de jouer pour la médaille d'or aux Jeux olympiques.
En fin de semaine, on a souligné le 40e anniversaire de la chaîne MTV.
Oh, c'est plus ce que c'était, hein?
Ah, ce n'est que le reflet d'elle-même, hein?
Ouais.
C'est vrai que c'est plus ce que c'était, mais c'était quelque chose à l'époque.
Un phénomène social.
Ben, c'est MTV qui a donné naissance au vidéoclip.
Ah oui!
Et on avait pris un grand, j'allais dire un gros guess, là, mais comment je dis ça?
Un grand risque.
Oui, c'est un grand risque au départ. Parce que on était totalement à la risée. Là. Quand on a annoncé qu'on allait juste tourner des vidéoclips, les magazines, les autres chaînes de télévision, tout le monde riait. Puis je disais, ben voyons donc.
Ça, le monde, ils veulent écouter de la musique, ils vont écouter à la radio.
Même qu'on pense que durant la première année de MTV, on a perdu quelque chose comme 50 millions de dollars. On pensait qu'on fonçait dans un mur. Finalement, on s'est bien repris. Le premier vidéoclip qui a tourné sur les ondes de MTV, c'est ça.
Ben, y avait-il vraiment tort ou raison?
Ben, c'est un peu prophétique même, hein, avec le seul gros hit là, de la formation de Buggles. Ça a été très populaire, mais l'artiste qui a vraiment lancé la chaîne MTV, c'est Michael Jackson.
Ben oui.
À chaque fois qu'il lançait un vidéoclip, les codes d'écoute montaient en flèche. On n'a qu'à penser au vidéoclip de Thriller à l'époque qui était hallucinant.
Ouais, puis ils l'ont annoncé comme 23 fois, 3000 fois avant de le présenter. Mais ça avait été très efficace.
Mais c'est normal parce que notre but, c'était de tourner des vidéoclips 24 heures sur 24, mais on en avait seulement 250 à peu près.
Ça, ouais.
Donc, la rotation...
Comme Musique Plus quand on a commencé francophone.
Ben oui.
C'est ça, ouais.
C'est ça, c'est ça. Puis évidemment, ben justement, Martin, tu parlais de Musique Plus. Quelques années plus tard, Musique Plus est née. Mm-hmm. Et on a fait quoi, 33-34 ans là, du côté de Musique Plus avant de s'éteindre.
Tristement, parce que culturellement parlant, pour notre culture, c'était très important aussi, puis au niveau de la musique. Mais tu sais, aujourd'hui, avec Internet, on retrouve encore les vidéoclips, puis pour vrai, c'est une forme d'art qui a encore sa place, j'ai l'impression.
C'est sur YouTube, à cette
heure. C'est ça, ça a changé. Puis à cette heure, ben, ce qui reste sur MTV, c'est peu de choses.
Au cinéma, c'est le film Jungle Cruise, le film d'aventure de Disney qui a vraiment retenu l'attention en fin de semaine en Amérique du Nord.
Parce qu'on a presque pas vu de pub, hein, puis de preview.
C'est ça.
On l'a pas dans la tête du tout. Là.
Ben, en plus, c'est avec The Rock.
Ben oui, Dwayne Johnson.
Puis lui, quand il est dans un film, ça fonctionne. Hein? Ça suit les aventures d'un docteur avec son frère dans la forêt amazonienne. C'est inspiré d'une attraction dans les parcs de Disney. On a créé une attraction dans les parcs, puis on s'est dit, on pourrait faire un film avec cette
attraction. Ah, mon Dieu, on a fait l'inverse qu'on fait habituellement.
Ben oui, toi, c'est ça. Donc, c'est le film qui retient l'attention. Parmi les autres films, il y a Old, film qui a l'air bizarre, là, de Night Shyamalan.
M. Night Shyamalan.
Ça raconte l'histoire d'une famille qui se trouve coincée sur une île, puis tout d'un coup, les gens se mettent à vieillir super rapidement.
Ah, mon Dieu.
Donc,
c'est comme un mélange entre Benjamin Button puis l'île Saint-Barnabé.
Ben, vu de même, ça a l'air intéressant, finalement.
Écoute, je vais regarder ça, moi.
Benjamin Button, il vieillissait pas rapidement.
C'était
juste pour la joke.
Ouais, j'avais compris. On l'a bien aimé quand même.
Elle était bonne, elle était pas pire. Sinon, ben, c'est sûr qu'au Québec, on n'a pas encore les chiffres, mais il y a probablement le film avec Louis Morissette, le guide de la famille parfaite, qui vient brouiller les cartes
Le
top 3. Ouais. Oui, aussi Sam. Alors, j'ai hâte de voir les détails pour ce qui est des chiffres au Québec. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Drake, on le connaît bien évidemment pour sa musique. On sait qu'il a fait un peu de télévision, de cinéma. Oui. Puis c'est un fan de sport, un fan de hockey aussi.
Ben oui.
Et il a décidé de faire équipe avec le joueur de basketball LeBron James et d'autres créateurs pour faire un film documentaire sur l'histoire des hockeyeurs noirs. Et c'est très intéressant.
Oh, ouais.
Le film va s'appeler Black Ice et l'histoire va commencer avec la création d'une ligue dans les Maritimes, la CHL, qui était composée entièrement de joueurs noirs. On va suivre l'histoire de cette ligue-là. Et par la suite, on va également interviewer des joueurs de hockey noir qui ont eu des enjeux importants durant leur carrière. Alors, c'est très intéressant. On sait que Drake, c'est un passionné de basketball, c'est un passionné de hockey. Lui, son équipe, c'est les Maple Leafs de Toronto. Il l'a souvent affiché avec le chandail et tout.
Les Raptors de...
Pour ce qui est du basket.
Oui, c'est un amateur de sport en général.
Exactement.
Oui, il tripe sur les Maple Leafs.
Exact. Donc, ce film-là va sortir dans certaines salles de cinéma. Mais si vous êtes abonné de Crave, vous allez pouvoir le voir également au cours des prochains mois en nouveauté.
Hey, ça, c'est cool. Puis, je veux dire, on a des joueurs de grand talent et de grand charisme aussi qui vont certainement en faire partie, ne serait-ce que Piqué Souban. Puis, je suis curieux de voir encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une certaine forme de stigmatisation? J'espère que non, tu sais. Mais on ne peut pas juger. On n'est pas dedans.
Pis, exact.
Les coulisses du pouvoir également, ça va être intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça.
Depuis hier, les nouvelles règles d'assouplissement pour ce qui est des spectacles présentés en salle ou encore les festivals sont entrés en vigueur. Alors, ça comporte entre autres les salles de spectacle qui peuvent maintenant accueillir 500 spectateurs au lieu de 250. La capacité maximale des grandes salles passe à 7500 personnes au lieu de 3500. Et à l'extérieur, maintenant, on peut compter jusqu'à 15 000 spectateurs. C'est le triple des 5 000 qui étaient annoncés auparavant. Donc, évidemment, on doit diviser les 15 000 en sections.
C'est là que ça devient compliqué pour les festivals, en fait.
C'est ça, des sections de 500 personnes au lieu de 250. Mm-hmm. Alors, ça prend de l'espace énormément, évidemment, pour diviser tout ce beau monde-là. Est-ce que ça a un impact chez nous? Parce qu'on sait que les grandes fêtes TELUS vont être présentées cette semaine.
Ouais.
Et on doit s'adapter rapidement avec ça. Ben, on a annoncé sur la page Facebook des grandes fêtes au cours des derniers jours, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'on allait qu'on a débloqué 500 nouveaux billets pour deux soirées, pour la soirée de jeudi avec les Cowboys Fringants et Émile Bilodeau et pour celle de dimanche aussi avec Véronique Bilodeau et Charlotte Cardin. Alors là, il y a des billets qui ont été débloqués, qui sont disponibles pour ces deux soirs-là. Si vous voulez en avoir, vous pouvez vous en procurer directement sur le site internet lesgrandesfêtes.com. Beyoncé, Queen Bee, qui a une nouvelle distinction. Aujourd'hui, elle se réveille ce matin avec une distinction du prestigieux magazine Rolling Stone. En fait, elle, avec son vidéoclip de la chanson Formation, gagne le prix du meilleur vidéoclip de tous les temps. Je suis comme surprise. Parce qu'il y avait quand même Michael Jackson là-dedans avec Thriller qui pouvait être dans cette liste-là.
On en a parlé plus tôt, en plus, c'est comment c'était iconique comme clip. Là,
ben oui, voilà, parce que la raison pour laquelle on a décidé de récompenser Beyoncé, c'est parce qu'on souligne les 40 ans de la chaîne MTV.
Mm-hmm.
Et pour l'occasion, ben, c'est Formation, c'est un vidéoclip qui est sorti en 2016, un court-métrage qui avait d'ailleurs gagné le Grammy du meilleur vidéoclip cette année-là, qui remporte la palme devant le vidéoclip de Johnny Cash avec sa chanson Hurt.
Ah oui, ça c'était bon.
Ça avait été marquant, cette reprise d'une chanson de Nine Inch Nails.
Ouais.
C'est une des dernières chansons là, qui a été enregistrée par Johnny Cash avant sa mort.
Mais certainement une des plus poignantes. Là. C'était quelque chose.
Ben oui, puis on le voyait aussi dans son visage, on le voyait dans le vidéoclip que Johnny Cash se faisait vieux.
Ouais.
Puis c'était comme en fait sa lettre d'adieu qu'il faisait.
Ouais, ouais.
Alors c'était très, très touchant. Il y a aussi Xavier Dolan qui se distingue dans le palmarès des vidéoclips les plus marquants. Lui qui a travaillé avec Adele pour la chanson Hello. Et le vidéoclip aussi là, avait été vraiment, vraiment bien fait, acclamé par les critiques.
On oublie. C'est vrai, j'avais oublié. C'était une grosse affaire à l'époque.
Ben
c'était un excellent clip, on s'entend. Félicitations à Caroline Lepage qui remporte son cadeau grâce au 102.9 Rouge toute la semaine. On est tous debout. On vous offre la chance de vous faire dorloter avec 75 $ quotidiennement. chez Talos Spa. C'est extraordinaire. Demain, la suite de Jeopardy, parce que oui, Martin est aussi de retour de vacances, tout comme Amy. Alors, on se retrouve demain dès 5h25 au 102.9 Rouge. À demain!
Yeah! On est tous debout!